VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir, bienvenue à l'édition du 1er juin 2015. À la une ce soir.
Burundi, journée de trêve dans les manifestations contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat.
En RDC, début des consultations sur le dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabila.
Nigeria, 5 jours après sa prise de fonction, Muhammadu Buhari s'apprête à visiter le Niger, un des partenaires dans la lutte contre Boko Haram.
Il y a une sorte d'unanimité chez beaucoup de Nigériens sur le choix porté par le nouveau président nigérien, Muhammadu Buhari. Pour eux, c'est plus que jamais le signe de la vivacité de la coopération entre les deux pays.
En Irak, alors que l'armée et ses alliés tentent de reprendre Ramadi, une nouvelle attaque des djihadistes a fait des dizaines de morts ce lundi.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au lendemain d'un sommet régional sur la crise, c'est le calme au Burundi où l'opposition a appelé à un jour de trêve dans les manifestations. On fait le point avec Idriss Fall.
Bujumbura a vécu une journée presque normale. L'opposition avait appelé ce lundi à une trêve dans les manifestations au lendemain d'un sommet régional ayant demandé le report des élections. Le gouvernement burundais a accueilli positivement cette demande d'après son porte-parole Philippe Nzobonariba. Comme les chefs d'État est-africains n'ont pas discuté de la question du troisième mandat, il a jugé que ce débat est clos. De leur côté, les opposants se sont dit très déçus. L'un des leaders de la contestation pacifique, Ninena Hasoué, a affirmé qu'ils vont encore manifester plus fort demain. Le président Pierre Nkurunziza, lui, a retiré vendredi sa carte d'électeur dans sa ville natale de Ngozi, située dans le nord du pays. Au cours d'un meeting, il a remercié la population d'avoir été solidaire pendant la tentative du coup d'État du 13 mai, alors qu'il assistait en Tanzanie à un sommet régional.
Une femme pour la toute première fois à la tête de la République de Maurice. Il s'agit d'Amina Gourib Fakim, désignée aujourd'hui par le gouvernement mauricien comme présidente du pays. La voici au micro de Jacques Aristide.
C'est une très grande avancée pour la femme. Ça a fait sauter quelques verrous. Je peux dire qu'on a plus ou moins franchi le fameux glass ceiling. Et pour l'Afrique et aussi pour les jeunes filles qui émergent, je pense que c'est un message qui est très fort, que la femme peut faire autre chose. Et elle peut faire aussi avancer le destin d'un pays. Et j'espère pouvoir être à la hauteur.
On sait qu'à Maurice, c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs. Donc, est-ce que vous allez pouvoir aller au-delà du symbole, c'est-à-dire une femme à la tête du pays?
Vous savez, ce qui se passe, c'est que les attributions du président sont vraiment régies par la Constitution. Mais moi, je pense que la présidence, ou bien le président, ou bien la présidente, peut faire beaucoup plus que ça. Et c'est regarder au niveau des réflexions qu'on peut apporter au niveau de la science, technologie, l'innovation, l'entrepreneuriat, et vraiment aller vers une diplomatie économique, diplomatie scientifique, diplomatie sociale, parce que Maurice, nous avons quand même de bonnes pratiques qui n'ont pas été valorisées à ce jour. Et pour l'Afrique, c'est important parce qu'on doit pouvoir exporter ces bonnes pratiques vers le continent.
La nouvelle présidente mauricienne Amina Gourib Fakim, c'est une scientifique de renommée. Elle était jointe à Port-Louis.
Au Nigeria, au moins 37 personnes sont mortes dans l'incendie d'un camion-citerne dont le chauffeur a perdu le contrôle aux abords d'une gare routière très fréquentée à Onitsha, dans le sud du pays. Les détails avec Saloua Jafari.
Le camion aurait perdu le contrôle pour foncer droit dans une gare routière, selon le porte-parole de la police locale. Le véhicule a ensuite pris feu. 12 autres bus et motocyclettes auraient subi le même sort. C'est ce qui explique le nombre important de victimes. On ignore toujours la raison pour laquelle le chauffeur a perdu le contrôle. Des médias nigériens ont fait état de 69 morts, mais aucune source officielle n'a confirmé ce bilan. Des dizaines de blessés ont été transportés à l'hôpital. Les accidents de la route sont très fréquents au Nigeria à cause du mauvais état des routes et des véhicules, des excès de vitesse et de l'abus de l'alcool au volant.
En Côte d'Ivoire, des experts de la FAO ont été dépêchés à Boaké, où des cas de grippe aviaire ont été détectés dans un élevage de volailles. Eddie Issango nous en dit plus.
Le gouvernement ivoirien a confirmé des cas de grippe aviaire dans un élevage traditionnel des volailles à Boaké, dans le centre du pays. Le ministre ivoirien des ressources animales, Kobena Kwasi Adjoumani, dit que ces prélèvements ont été effectués dans une basse-cour du quartier Koko suite à de nombreux décès des volailles constatés le 18 mai dernier. Le ministre a souligné qu'il n'existe qu'un seul foyer isolé et maîtrisé et qu'aucun cas de mortalité massive n'a été rapporté dans les élevages modernes. La FAO a dépêché une équipe d'experts pour prévenir la propagation du virus H5N1. Des pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso et le Nigeria, ont rapporté des cas de grippe aviaire ces derniers mois. En avril, la Côte d'Ivoire avait fermé son marché aux volailles venant du Burkina et le Bénin a interdit toute importation de volailles.
L'Afrique du Sud a commencé à appliquer ce lundi de nouvelles règles de contrôle aux frontières dans le cadre de la lutte contre le trafic d'enfants. Les voyageurs doivent dorénavant produire les actes de naissance pour les mineurs qui entrent et sortent du pays, sauf lorsqu'ils ont un visa en règle et voyagent avec leurs deux parents, rapporte l'AFP. Les organisations du secteur touristique se plaignent de la lourdeur bureaucratique et disent que ces mesures nuisent à leurs affaires.
Et le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mayi Shlomi Tshwete, a rétorqué aujourd'hui que la mise en œuvre du nouveau règlement se passait sans problème majeur. Un malgache et son épouse ont été condamnés ce lundi par la Cour d'appel de Paris à 4 ans de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger après la mort d'une jeune fille qu'ils exploitaient comme domestique. L'adolescente prénommée Lila avait 14 ans quand elle a quitté Madagascar en 1992 pour servir ce couple. Rentrée à Madagascar le 2 juin 1997, Lila est décédée 6 jours plus tard à 18 ans. Une autopsie a déterminé que sa mort était d'origine traumatique. En première instance, le couple avait été condamné à 4 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Meaux. Les accusations de coups mortels, séquestration et viol ont été abandonnées faute de preuves suffisantes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au moins 37 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessées lorsque des militants du groupe État islamique ont attaqué une base de l'armée irakienne aujourd'hui près de Samara. Pour cette attaque, les djihadistes ont utilisé un char rempli d'explosifs. Selon les autorités irakiennes, une seconde explosion a suivi l'attentat suicide qui visait un endroit situé au nord de la ville de Ramadi, prise récemment par les islamistes. Des forces militaires et paramilitaires sont rassemblées dans cette zone pour préparer et lancer des opérations contre le groupe État islamique.
Les organisations humanitaires s'apprêtent à lancer un appel de fonds de 500 millions de dollars pour répondre à la crise en Irak. Comme le souligne l'AFP, l'UNICEF a annoncé la nouvelle aujourd'hui à la veille d'une rencontre internationale à Paris sur l'Irak et la Syrie. Selon un représentant de l'UNICEF en Irak, plus de 8 millions d'Irakiens ont été déplacés par les combats et ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.
Au Yémen, les frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite ont encore fait des dizaines de victimes, y compris les civils. Entre-temps, l'AFP, citant des sources diplomatiques et le gouvernement yéménite en exil, fait état de nouveaux efforts entre Washington, l'ONU et les parties en conflit afin de trouver une issue au conflit. Des tractations se déroulaient ce lundi dans le sultanat d'Oman, apprend-on de même source.
Pour la première fois depuis son enlèvement au Yémen, une vidéo de la Française Isabelle Prime est apparue sur YouTube. On y voit la consultante demandant l'aide des présidents français et yéménites pour qu'elle puisse obtenir sa libération. Elle dit qu'elle a été kidnappée à Sanaa il y a 10 semaines, qu'elle a essayé de se suicider et que maintenant elle souhaite rentrer en France. Selon des sources diplomatiques françaises, la vidéo a été enregistrée en avril, 2 mois après l'enlèvement.
Il y a eu 6657 morts en Syrie le mois dernier, faisant de mai le mois le plus meurtrier dans ce conflit en 2015. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, que cite l'AFP, la majorité des victimes sont des soldats du régime et des djihadistes. Au total, près de 23 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début de l'année.
John Kerry, victime d'un accident de vélo en France. Monsieur Kerry s'est fracturé le fémur hier à environ 40 km de la frontière suisse. D'abord hospitalisé à Genève, le chef de la diplomatie américaine devait rentrer à Boston ce lundi en compagnie de son chirurgien orthopédiste, le même qu'il avait opéré à la hanche. Le secrétaire d'État américain était en Suisse pour une rencontre avec son homologue iranien Jawad Zarif. Il se porte bien selon son porte-parole et a eu plusieurs entretiens téléphoniques, dont un avec le président Barack Obama.
Et la liste des candidats républicains pour 2016 s'allonge. C'est le sénateur Lindsey Graham de la Caroline du Sud qui a annoncé sa candidature aujourd'hui dans sa ville natale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jacques Aristide.
La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, est désormais présente à Abidjan où elle vient d'ouvrir son troisième bureau sur le continent après celle d'Harare au Zimbabwe et d'Abuja au Nigeria. Pour donner le coup d'envoi à ses activités en Côte d'Ivoire, Afreximbank a aussitôt alloué environ 84 millions de dollars pour financer la construction d'un établissement hôtelier dans le pays. La Banque africaine d'import-export a prévu également de lever plus d'un milliard de dollars grâce à des euro-obligations et des prêts et envisage de réaliser pour la première fois des emprunts en yuan chinois. C'est ce que rapportent les agences Ecofin et Bloomberg. L'agence nigériane anticorruption a arrêté 6 cadres supérieurs de la banque centrale et 16 autres employés de banques privées soupçonnés de fraude aux devises. C'est ce qu'a indiqué ce lundi à l'AFP Wilson Uwujaren, porte-parole de l'agence. Ces arrestations interviennent quelques jours seulement après la prise de fonction de Muhammadu Buhari. Le nouveau président a promis des mesures sévères pour endiguer la corruption endémique qui sévit jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et pour terminer, Greenpeace Afrique a accusé la firme libanaise Cotrefort d'exploitation illégale du bois en République démocratique du Congo. Selon l'ONG, cette activité est un réel danger pour des espèces comme les bonobos et la phromosia. Ces accusations sont formulées dans un rapport publié récemment et intitulé « Exporter le chaos ». La compagnie Cotrefort n'a pas encore réagi à cette sortie de Greenpeace contre elle.
Merci Jacques Aristide pour la Minute Éco.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie.
Yaya Touré reste à Manchester City.
Oui, le milieu de terrain ivoirien de 32 ans que la rumeur envoie à l'Inter de Milan après une saison délicate assure qu'il restera à Manchester City l'an prochain selon ses déclarations au Manchester Evening News. « Je vais rester, les supporters n'ont pas à s'inquiéter », a-t-il ainsi expliqué au quotidien régional. « Mon objectif cette saison, c'est de faire tout mon possible pour que cette équipe s'améliore. » Et je suis sûr qu'avec mon expérience, et j'espère les joueurs qui vont arriver dans quelques semaines, il y aura une forte équipe de City la saison prochaine, a-t-il déclaré. Marqué cette année par la perte de l'un de ses frères, ainsi qu'une saison éprouvante qu'il a vu remporter la CAN cet hiver, mais également se blesser à plusieurs reprises, Yaya Touré est convaincu que tout cela est derrière lui.
Mondial des moins de 20 ans.
C'était le choc de cette troisième journée en Nouvelle-Zélande et presque un classique dans l'histoire de cette compétition. Le Brésil et le Nigeria se rencontraient pour la sixième fois en Coupe du Monde des moins de 20 ans à New Plymouth pour le compte du groupe D. Ces retrouvailles ont tenu leurs promesses et ont encore une fois tourné à l'avantage du Brésil pour la cinquième fois dans l'histoire. Victoire 4-2. On rappelle que samedi, le Ghana a été tenu en échec un partout par l'Autriche. Hier, grâce à deux buts des Lillois Adama Traoré et Dieudonné Gbakley, le Mali a remporté son premier match face au Mexique 2-0. Défaite en revanche du Sénégal qui s'incline face au Portugal 3-0. Le Ghana joue la nuit prochaine face à l'Argentine.
Tennis, sensation à Roland-Garros, Nicolas.
La Russe Maria Sharapova, numéro 2 mondial et tenante du titre, a été éliminée par la Tchèque Lucie Safarova, numéro 13, en 2-7, 7-6, 7-3 lors des huitièmes de finale. Les quatre demi-finalistes de l'édition 2014 de Roland-Garros sont déjà toutes éliminées. Chez les hommes, Roger Federer s'est montré solide face à Gaël Monfils en huitièmes de finale, 6-3, 4-6, 6-4, 6-1. David Ferrer, tête de série numéro 7, n'a pas traîné en huitièmes de finale, en 3-7 et 1h53 de jeu. Il a facilement disposé du Croate Marin Cilic, 6-2, 6-2, 6-4.
Il n'y a pas d'âge pour faire du sport, n'est-ce pas Nicolas ?
Eh oui, Harriet Thompson, retenez son nom, est devenue hier à 92 ans et 65 jours la femme la plus âgée au monde à disputer un marathon. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs du marathon de San Diego. La nonagénaire qui participait pour la 16e fois à l'épreuve californienne a mis 7h, 24 minutes et 36 secondes pour boucler les plus de 42 km de l'épreuve.
Merci beaucoup Nicolas Pineau pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorsil en votre compagnie pour vous présenter les dossiers du jour. Première escale, Chérubin, la RDC.
Pour parler du début des consultations à Kinshasa autour du président Joseph Kabila, consultation sur le futur dialogue pour un environnement apaisé pendant la tenue des prochaines élections. Le chef de l'État congolais reçoit aujourd'hui, ou devait recevoir aujourd'hui, et il recevra encore demain, les chefs coutumiers et les confessions religieuses. Parmi elles, l'Église catholique qui salue l'initiative du président Kabila. Les détails avec Christian Lusakweno de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Pour nous, le dialogue est une voie royale et pacifique de sortie des crises et même un élément constructif de tout système démocratique. Ça correspond même à notre doctrine, l'Église a toujours prêché cela. Mais ensuite, il faut voir pour tout dialogue quel en est l'objet, fixer les objectifs, les finalités. Et donc pour les évêques, il est impérieux pour le moment d'avoir un consensus sur les calendriers électoraux.
Au nom de l'Église catholique, l'abbé Santédi a résumé cette première journée de consultation autour du président Joseph Kabila. Le principal sujet abordé était, comme nous le confirme le président de l'Église protestante du Christ au Congo, le calendrier électoral. Monseigneur Marini Bodo.
Calendrier électoral, et il faut dialoguer autour de cela.
Uniquement calendrier électoral.
Je vous dis que c'est le calendrier qui provoque les consultations, les concertations. Parce que la vie des gens s'y trouve.
Avec tous ses interlocuteurs, musulmans de l'armée du salut, de l'église kimbanguiste, de réveil et des chefs coutumiers, le président Joseph Kabila essaye de déblayer le terrain avant le dialogue annoncé, pour apaiser les tensions avant les élections. L'opposition hésite, mais apparemment, plus l'église catholique, dont l'archevêque de Kinshasa, Mgr Mosengo, sera, après la conférence épiscopale ce lundi, l'hôte du chef de l'État ce mardi à 9h. Kinshasa, Christian Lusakweno, Top Congo FM, pour la VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Le Niger sera la première destination à l'étranger du nouveau président nigérian, Muhammadu Buhari, 5 jours après sa prise de fonction. Il va y effectuer une visite d'État de 2 jours à partir de mercredi et jeudi avant de continuer sur le Tchad. Ces deux pays ont été les premiers à s'engager pour lutter aux côtés de l'armée nigériane contre le groupe extrémiste Boko Haram. Comment cette visite du président nigérian est-elle accueillie par les Nigériens? Notre correspondant Abdul Razak Idrissa a recueilli les impressions de quelques habitants de Niamey.
C'est en quelque sorte une reconnaissance de l'engagement du Niger dans la lutte contre la secte Boko Haram.
Il y a une sorte d'unanimité chez beaucoup de Nigériens sur le choix porté par le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari d'effectuer au Niger sa première visite d'État à l'extérieur depuis son investiture. Pour eux, c'est plus que jamais le signe de la vivacité de la coopération entre les deux pays.
Moi, je crois qu'en choisissant le Niger, en réalité, Buhari revient chez lui. Parce que n'oubliez pas que nous avons plus de 1200 km de frontière avec le Nigeria. Nous avons les mêmes origines. C'est pratiquement la colonisation qui est venue tracer des frontières entre nos deux pays.
Les relations entre le Niger et le Nigeria sont, depuis la nuit des temps, très avancées, très, je dirais même que c'est des familles qui se retrouvent de part et d'autre des frontières. Donc,
au-delà de tout, certains Nigériens voient aussi dans cette visite du général Buhari au Niger comme un choix qui s'impose à lui, question sécuritaire oblige.
C'est un choix obligé pour ce nouveau président, dans la mesure où c'est un connaisseur de la sécurité en tant qu'ex-général du Nigeria. Donc il sait bien pour que son engagement puisse être porteur et efficace, il faut bien évidemment coordonner avec le pays voisin dont l'engagement a été quand même montré.
Je pense que le fait qu'il entame avant même la formation de son gouvernement, une visite ici et au Tchad, c'est pour montrer en tout cas qu'il n'a pas été insensible aux efforts que notre peuple a fournis à travers notre intervention militaire, en tout cas au Nigeria. C'est pratiquement, en tout cas, pour relancer le combat contre Boko Haram. Il veut rapidement finir avec Boko Haram. C'est d'abord une question sécuritaire. Les trucs économiques et autres là vont venir par la suite. Mais dans l'immédiat, le problème qu'il cherche à résoudre, c'est le problème de Boko Haram. Et je pense que c'est pour cela qu'il revient chez lui.
Pour la majorité des Nigériens, il va certes être question sécurité dans les échanges entre Issoufou et Buhari. Il doit aussi être évoqué la question énergétique. Le Niger dépend en effet en grande partie du Nigeria sur ce plan. Les dernières perturbations dans le secteur au Nigeria ont été lourdement ressenties ici au Niger. Il faut noter que cette visite du général Muhammadu Buhari est la raison principale du report de la marche prévue demain mardi par les organisations de la société civile nigérienne. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Vaste campagne de vaccination contre la rougeole au Cameroun. C'est la réponse du gouvernement face à l'épidémie qui frappe le pays et qui ne fait qu'empirer, selon des médecins. De nombreux parents, disent-ils, ne font pas le nécessaire pour faire vacciner leurs enfants contre cette maladie hautement contagieuse, mais tout à fait évitable. De Yaoundé, la correspondance de Moki Edwin Kinzeka. Son reportage est présenté ici par Jacques Aristide.
Le Cameroun déclare la guerre à la rougeole et c'est à Yaoundé, la capitale politique, que le coup d'envoi a été donné. La maladie a été détectée dans cette localité de la ville des Sept Collines. Les principales raisons de sa propagation avec la secrétaire permanente du programme élargi de vaccination, docteur Marie Kobela.
Pourquoi il y a ces épidémies? C'est parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne vaccinent pas leurs enfants. Le vaccin se fait à l'âge de 9 mois. Donc, entre le dernier vaccin qui est reçu à la 14e semaine et ce vaccin anti-rougeole qui est à l'âge de 9 mois, les mamans oublient les rendez-vous. Et très souvent, ne viennent pas à 9 mois pour faire ce vaccin. Et comme c'est une maladie extrêmement contagieuse, dès qu'il y a un seul cas, tous les enfants autour, s'ils sont non vaccinés, ils vont attraper la maladie.
Pour tenter de juguler l'épidémie, des équipes de surveillance ont été déployées dans les régions considérées comme les foyers de la maladie. Mais pour mener à bien cette tâche, le gouvernement a appelé à la coopération des populations en leur demandant notamment de signaler tous les cas suspects. Docteur Kobela, à nouveau.
C'est un enfant qui va faire de la fièvre, qui aura une éruption cutanée, les yeux rouges, larmoyant, le nez qui coule et la bouche aura des petites blessures. Ça, c'est la rougeole. Il faut se rendre au centre de santé le plus proche. Donc, il faut qu'on baisse la fièvre. Il faut que l'enfant continue à avoir son allaitement maternel. Si la maman espaçait déjà l'allaitement, il faut qu'elle revienne, qu'elle insiste, qu'elle lui donne ça fréquemment. Ça va protéger l'enfant et l'enfant doit être supplémenté en vitamine A.
Au cours de la présente campagne, les autorités ne manquent pas non plus de rappeler la contagiosité de la maladie. En effet, le virus se transmet très facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux, les éternuements, mais également à travers les mains ou les objets contaminés par des sécrétions du nez ou de la gorge comme les jouets et les mouchoirs. Une personne contaminée est contagieuse sans le savoir, avant même de se sentir malade. C'est ainsi que sur le terrain, il est avant tout question d'encourager les gens à se faire vacciner s'ils ne sont pas à même de prouver qu'ils l'ont été déjà à leur jeune âge ou encore de pouvoir établir qu'ils n'ont jamais contracté la rougeole. Quant aux parents de nourrissons qui ont entre 6 et 11 mois, ils sont contraints à les faire vacciner. Ngambi Martin dirige l'une des équipes dépêchées à Yaoundé.
Dans l'aide de santé de Nkwa Bank, il y a cette équipe de vaccination composée d'un mobilisateur et d'un vaccinateur. Le travail du mobilisateur consiste à aller mobiliser la population pour l'adhésion totale à la vaccination.
La dernière flambée de rougeole au Cameroun remonte à février 2010 et avait duré jusqu'en juillet 2011. 37 des 179 districts du pays avaient alors été touchés.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Ici, aux États-Unis, l'autorisation de la collecte par la NSA et des données téléphoniques des Américains a expiré la nuit dernière. Le Sénat n'a pas pu s'accorder sur le renouvellement de ce programme, révélé au grand public par Edward Snowden. Cela étant, depuis dimanche soir, les services de renseignement ne sont plus en mesure de continuer la collecte massive de données. C'est le sénateur républicain Rand Paul qui a bloqué la procédure. Quelles sont les conséquences de cette situation sur la sécurité des États-Unis? La réponse de Chika Kanyori, directeur du magazine Transatlantique de Montréal, au micro de Bagassi Koura.
D'abord, ça veut dire que à partir de minuit, le gouvernement n'a plus les informations qu'il pouvait avoir aujourd'hui.
Alors, est-ce que les terroristes doivent célébrer? Est-ce que l'Amérique est plus exposée?
Bah, peut-être un tout petit peu pour un temps, mais je ne pense pas que ça soit si dangereux que ça, puisque comme on dit, probablement que dans quelques temps, ça va être fait. C'est une question de procédure. Ce n'est pas une question de fond.
Alors, d'habitude, on dit que ce sont les démocrates qui sont faibles en sécurité nationale.
Oui.
Et ce blocage vient d'un républicain, Rand Paul. Oui. Comment expliquer cela?
Oui, effectivement, c'est un républicain, mais c'est un républicain qu'on appelle libertarien. C'est un groupe, il est assez proche du Tea Party, mais il est encore un peu plus à l'extrême même dans certains dossiers, puisque c'est des gens qui croient en la liberté individuelle, poussée à l'extrême.
La liberté absolue, quoi.
Oui, absolument, qui veulent que l'État n'a rien à voir dans les choses. Or, sans État non plus, la liberté ne peut pas être illimitée. C'est complètement incroyable, puisque c'est l'État aussi qui veille au respect des libertés.
Donc, oui. Alors, on s'est dit qu'il faut s'attendre à ce que cette loi, quand même, soit votée, peut-être dans la semaine ou
en tout cas
dans les jours à venir.
Oui.
Est-ce qu'il y aura des changements ou est-ce que le Patriot Act va être reconduit tel qu'il est?
Probablement que pour le moment, je pense qu'il y a des gens qui auraient souhaité qu'il y ait des changements, mais je pense que dans la situation actuelle, ce n'est pas certain qu'il y en aura beaucoup. Je pense que toutes les concessions auxquelles les partis, beaucoup de gens s'entendaient, ont été faites de deux côtés. Puisque comme vous le savez, les républicains n'aiment pas beaucoup le président Obama et que s'ils sont arrivés à s'entendre, les démocrates et les républicains, c'est qu'il y a un consensus national quand même. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui.
C'était une analyse de Chika Kanyori, directeur du magazine Transatlantique de Montréal.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Aujourd'hui, Top 10 American Music. De la bonne musique de Ligue Parade américain cette semaine. Nous allons aussi conclure avec notre sujet de la semaine dernière. Que pensez-vous du mariage précoce? Envoyez-nous vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Encore une fois, c'est le plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un rappel de quelques titres.
Burundi, journée de trêve dans les manifestations contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat.
En République démocratique du Congo, début des consultations sur le dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabila.
Nigeria, 5 jours après sa prise de fonction, Muhammadu Buhari s'apprête à visiter le Niger, un des partenaires dans la lutte contre Boko Haram.
En Irak, alors que l'armée et ses alliés tentent de reprendre la ville stratégique de Ramadi, une nouvelle attaque des djihadistes a fait des dizaines de morts ce lundi.
Au Yémen, les frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite ont encore fait des dizaines de victimes, y compris des civils, aujourd'hui. Cette édition touche à sa fin. On remercie Lionel Gaïma qui a assuré la production, assisté de Mr. Thwaite à la console. Présentation Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com et c'est les infos dans moins d'une minute à peu près. Très bonne soirée sur VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.